Bonjour et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, je reçois des autrices pour parler de leurs livres et d'écriture, d'édition et de processus créatif. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Aujourd'hui, dans La Page Blanche, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice Joy Majdalani pour parler de son livre Le goût des garçons. Un premier roman remarquable à bien des égards, tout d'abord pour le sujet qu'il aborde, le désir féminin et le feu qui anime les adolescentes à un âge crucial de leur existence. Plaire à tout prix, séduire absolument, c'est le projet de ces filles de 13 ans dont nous parle ce livre à l'écriture ciselée, maîtrisée, parfaite. Le désir adolescent y est dépeint dans toute sa force, sa puissance et sa violence, et la narratrice devra suivre son propre parcours initiatique pour assumer et assouvir ce désir dans une société où les jeunes filles n'ont pas le droit de brûler à l'intérieur. Dans cet épisode, on parle de ce que c'est justement d'être une jeune fille au tournant du XXIe siècle, de la représentation du désir féminin et des injonctions qui pèsent sur les adolescentes, du rapport à l'amour comme à l'amitié. Aussi spontanée que solaire, Joy partage sa vision de l'écriture avec enthousiasme ainsi que son amour profond pour la littérature, amour qu'elle a décidé de vivre avec passion et surtout au grand jour. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Joy Majdalani. Bonjour Joy!
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans La Page Blanche. Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de ton premier roman, Le goût des garçons, qui vient de paraître chez Grasset. Alors, pour commencer, j'ai une question très simple, c'est de savoir pourquoi tu as choisi ce titre, Le goût des garçons, et est-ce qu'il s'agissait de ton titre de travail, de ton titre de départ, ou pas du tout ?
Alors ce titre s'est imposé à moi assez vite, c'est la première phrase que j'ai écrite, je vous parle de ces filles qui m'ont donné le goût des garçons, et je pense que très vite, quand j'ai fini, j'en étais même pas arrivée à la fin du premier chapitre, qu'il m'a semblé évident qu'il fallait utiliser ce titre-là, parce que il englobe assez bien ce que le roman veut dire. Je pense que moi je trouve au moins trois significations distinctes. Donc, à plein d'égards, ce roman, c'est l'éclosion du désir pour les garçons, donc du goût pour les garçons chez la jeune narratrice. Son obsession, c'est de goûter aux garçons dans un sens sensoriel. Mais aussi, ce qui l'occupe le plus, c'est l'inquiétude d'être au goût des garçons. Et c'est ça son obsession, de se demander ce qui plaît aux garçons et comment s'y conformer le mieux possible. Donc pour moi, ce titre semblait contenir tout le roman. C'était un programme, c'est le programme de la narratrice, c'est mon programme en l'écrivant, donc je l'ai gardé.
Voilà. Oui, c'est vrai que le terme du goût englobe les deux aspects du roman, c'est-à-dire plaire aux garçons et séduire les garçons, donc ce double mouvement de séduction. Parce que donc c'est un roman sur le désir, tu l'as dit, le désir féminin, le désir d'adolescente, de jeunes adolescentes, tout tend et converge vers ce désir, mais on n'est pas du tout dans le gentil balbutiement hormonal tel qu'on peut le décrire parfois pour des adolescentes, non, on est vraiment dans quelque chose de très brut, de très âpre et de même assez violent. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette thématique-là du désir adolescent et aussi dans cette approche-là très violente du désir ?
Alors, je pense que ce qui m'a intéressé, c'est simple en fait. La genèse de ce roman, c'est un très bon ami qui s'appelle Victor Cohen, avec lequel je travaille beaucoup, qui est aussi auteur. Et on parle souvent de ce qu'on écrit, de nos projets d'écriture. Et donc au moment où je voulais commencer à écrire ce roman, il m'a semblé qu'il fallait que je touche à quelque chose qui était très intense et très important, parce qu'il m'a demandé si tu avais 5 minutes pour parler au monde entier avec la certitude qu'on t'entendra, qu'est-ce que tu dirais ? Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là de ma vie, c'était mon rapport à moi, à la séduction, au désir. Et pourquoi j'avais passé tant d'années de ma vie à me voir en fait dans le regard de garçon ou d'homme, selon l'âge que j'avais. Pourquoi c'était devenu une chose aussi importante pour moi ? Et il m'a semblé nécessaire de remonter à la source de ce désir-là, au premier moment de ce de de cette configuration-là, du moment où ça se met en place. Et il m'a semblé que toutes ces choses-là se mettent en place à l'adolescence. Et j'ai voulu remonter à ce moment-là de l'adolescence, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je parle de cet âge-là. Et pourquoi la violence? Parce qu'il me semble que c'est très violent. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas connu l'espèce de, voilà, de romance un peu timorée, voilà, très rêveuse, qu'on raconte. Moi, pour moi, c'était des secousses très violentes, c'était une peur violente de pas être assez, de pas correspondre à ce à quoi il faut être pour plaire, de ne jamais connaître le désir ou l'amour. Et c'est des sentiments violents, c'est des désirs violents, c'est... Donc voilà, j'ai essayé de retranscrire ça le plus proche possible d'une expérience qui fait la mienne. Oui,
oui, qui commence à l'âge de 13 ans, parce que c'est ce qu'il y a écrit sur le bandeau du livre, les filles de 13 ans, comme si finalement c'était vraiment à cet âge-là précisément que tout commence, voire que tout se joue. Et on sent qu'il y a l'importance de cet âge-là et que ce soit pas des adolescentes de 15, 16 ou 17 ans.
Je pense que chacune... Enfin, moi, j'ai beaucoup discuté avec des amies qui, certaines, se sont beaucoup reconnues dans ce mouvement de ce qui se passe à l'âge de 13 ans. D'autres m'ont dit, moi, écoute, jusqu'à 16 ans, je n'avais rien à voir avec les garçons, ça me regardait absolument pas, j'étais très contente dans ma petite vie, encore un peu enfant. Et je pense que ça se déclenche à des âges différents, et c'est quelque chose dont je parle dans le livre, et justement, en fait, ce décalage entre des filles qui peuvent avoir été amies pendant l'enfance, et puis l'une... se sent plus adolescente, plus adulte, enfin adulte dans la mesure où on peut se sentir adulte à cet âge-là que l'autre, et ça crée des espèces de des amitiés qui se délient. Enfin, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et dont je parle dans le livre. Mais je pense que symboliquement, 13 ans, moi en tout cas quand j'en avais 10, 11, 12, pour moi 13 ans c'était une barrière, c'est quelque chose, c'est le début de l'adolescence. Il y a les films, les chansons, c'est toujours ces 13 ans-là qui marque le début de quelque chose de neuf, un monde auquel on aurait accès. Et je pense que quand on a été comme moi une préadolescente qui a hâte de grandir, moi c'était mon cas, l'âge de 13 ans c'est une coupure, quoi.
Pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, quand je parle de violence ou de désir vraiment âpre, j'aimerais lire un extrait du livre, si tu me le permets. Le désir que je rêvais de susciter n'avait pas de finalité précise. Je voulais être de celles qui causent des ébranlements incontrôlés. Les héroïnes des histoires racontées avaient la beauté violente qui provoque guerres et enlèvements. Une beauté pousse au crime. Là était mon programme. Nous en parlions sans honte. Nous voulions d'un désir qui fasse perdre le contrôle. Pour instiller en nous la peur des hommes, on nous avait enseigné qu'ils étaient imprévisibles, violents, sauvages. Nous appelions de nos voeux cette bestialité. Nous ne connaissions pas la différence entre l'amour et le rapt. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on a ce désir très assumé, on va dire, et en même temps on sent que c'est un désir ou une pensée qui est biaisée par toutes les représentations qu'on peut avoir à cet âge-là de l'amour, du sexe, des relations hommes-femmes, biaisées parce qu'on essaye de nous inculquer ou de ne pas nous inculquer, et c'est des apprentissages en fait qu'on ne nous donne pas et qu'on découvre peu à peu. Donc j'aime bien ce rapport entre un désir affirmé et en même temps un peu brouillé.
Et c'est exactement ça. En fait, la narratrice se trouve dans une situation impossible parce qu'elle assiste à la naissance de son désir et en même temps, en tant que fille et plus tard en tant que femme, elle est assignée à une position de désirée et non pas de désirante. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé, qui m'a toujours semblé tellement violent, en fait, dans notre position de femme et de fille, où toutes les représentations nous montrent des filles qui attendent, ou des femmes qui attendent sagement qu'on tombe amoureux d'elles, qu'on vienne les chercher, qu'on les enlève avec plus ou moins de violence, et ça part de Hélène de Troie aux comédies romantiques. C'est vraiment des représentations qui traversent les âges et qui vont de la culture qu'on nomme la culture haute à la pop culture. Et donc quand on est une fille et qu'on a ce désir-là et que ce désir-là est violent, on n'a aucun moyen de l'exprimer ou de se lancer à la conquête de quelque chose, de se lancer à la conquête de quelqu'un. En tout cas, enfin si on peut le faire, mais en tout cas les représentations ne nous y aident pas. Et donc comment ce désir-là est traduit ? Il est traduit par ce souhait de se faire enlever, de se faire kidnapper un peu avec la violence qui l'habite. On lui a dit que la plus grande qualité qu'elle devrait avoir en tant que femme, c'est d'être jolie, c'est d'être désirable. Et elle, elle pousse cette pensée-là à son paroxysme. En fait, c'est un peu le retournement de ce qu'on appellerait la culture du viol, où l'idée que, en fait, c'est la femme qui, par sa beauté ou par sa, sa disponibilité sexuelle, pousserait les hommes à la violence. Elle, elle a tellement intégré ce message-là, mais à l'envers, en fait. Elle, elle veut être tellement belle, tellement irrésistible, qu'elle provoquerait de la violence, mais sans vraiment, évidemment, sans se représenter ce que cette violence est concrètement.
Oui, à chaque fois, elle a conscience de ne pas savoir ce que c'est, de ne faire que l'imaginer, que le rêver, et de ne pas avoir conscience de ce que ça implique concrètement sur son corps. Elle le dit très bien. Donc il y a aussi cette lucidité un peu paradoxale avec le propos.
Exactement. Le chapitre dont tu parles, c'est celui qui commence par cette phrase « J'ai longtemps espéré un viol ». Et souvent, on me demande, en fait, c'est un fantasme de viol. Et moi, je dis non, c'est pas un fantasme de viol. Dans le sens où une femme adulte pourrait avoir, pourrait faire des scénarios ou des jeux sexuels de violence ou de soumission. Ce n'est pas du tout de ce registre-là. Elle n'a aucune représentation concrète de ce que ça veut dire, en fait, sur son corps, sur sa sexualité. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la désire avec force, en fait.
Oui, exactement. Et je trouve ça vraiment bien que cette narratrice, finalement, elle suit son propre parcours initiatique. Il y a tout ce mouvement d'innocence qui progresse tout au long du livre et elle s'émancipe. Alors, je ne sais pas si émanciper, c'est le terme exact ou s'il y a un mouvement de libération, mais en tout cas, elle essaye de transgresser les codes puisque dans son collège, qui est donc un établissement catholique privé pour jeunes filles de bonne famille, il y a des filles qui transgressent les règles, il y a des filles qui transgressent les codes, qui sont les dangereuses, mais ces filles-là, elles ont l'art de la transgression, l'art de transgresser les règles en sachant comment faire pour ne pas être exclue de cet écosystème-là. Et la narratrice, elle, il y a un moment donné où elle fait exploser toutes ces règles et tous ces codes, et finalement, c'est peut-être cette transgression dans la transgression qui lui permet de s'émanciper.
Merci pour cette belle lecture. En fait, c'était important pour moi de montrer un peu le chemin initiatique que traverse la narratrice. Au début, son désir, c'est un désir mimétique. Elle regarde les dangereuses qui sont fabuleuses, qui sont belles, qui semblent marcher sur l'air comme ça, qui sont supérieures à tout le monde. Elle se dit « si seulement je pouvais être l'une d'elles », c'est son désir le plus profond. Et puis à mesure que le roman avance, elle va se rendre compte que leur genre de transgression silencieuse n'est pas vraiment le sien. Et c'est exactement comme tu l'as dit, une transgression dans la transgression. Donc elle va passer du mimétisme et de l'envie d'appartenance à une rébellion et à un individualisme exacerbé où elle va chercher, elle, sa propre manière de transgresser qui va être plus frontale et plus révoltée que celle des dangereuses.
Tout à l'heure, tu parlais des liens qui se font et qui se défont. Et le cœur aussi de l'histoire, au-delà du désir des garçons, c'est les histoires entre les filles. Ce jeu d'alliances, de mésalliances, de copinage, de secrets, de trahison. Je pense qu'on a beaucoup connu ça. Enfin, c'est quelque chose de moi qui m'a beaucoup marqué à la lecture. Il y a à la fois une vraie connivence entre toutes ces filles-là et en même temps, encore une fois, une vraie violence des filles de 13 ans, mais entre elles. Et ce jeu-là aussi est très intéressant à décortiquer.
Exactement. Je pense que ces filles sont soumises à énormément de violence. Dans la société que je décris dans ce livre, il y a énormément de... Il y a des violences sociales très fortes liées au genre, mais pas seulement. C'est une société très classiste où il y a des signaux d'appartenance très marqués et où on risque de se trahir à tout moment, de sortir de sa caste. Et donc, toutes ces violences-là s'abattent en permanence sur ces filles et ces filles les ressortent l'une envers l'autre, quoi. Donc, elles sont violentes l'une envers l'autre, mais elles se battent contre un même ennemi, en fait. Et ça m'a... Et pour moi, c'était important à dire, et d'autant plus parce qu'à cet âge-là, 13 ans, il me semble, en tout cas, je me base sur mes souvenirs pour en parler, que ces histoires-là d'alliance ou de mésalliance avec ses amis, c'est la chose la plus importante au monde, à peu près, quoi. Donc moi, j'ai des souvenirs de monde qui s'écroulait parce que tel ou tel ami refusait de me parler, ou se disputer à la récré. Donc pour moi, c'est des choses qui ont l'importance, en fait, de jeu politique, mais même, et aussi de relations amoureuses, donc les deux en même temps, quoi.
Oui, et c'est pour ça que je parlais du bandeau, le bandeau du livre qui est Les filles de 13 ans. Quand je le vois, enfin, et après avoir lu le livre, ça devient évident qu'il est nécessaire et que c'est comme si c'était une, à la fois une annonce programmatique, le vrai sujet du livre et une façon de dire voilà, on va traiter de ce sujet-là dans ce livre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette velléité de dire on va parler d'adolescente, mais pas tant comme objet que comme sujet littéraire. Et je trouve que c'est vraiment exceptionnel de faire ça à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus de romans qui le font, bien sûr, mais c'est au prix de millénaires de jeunes filles qui ont été objectivées dans le regard d'homme ou pas, d'ailleurs. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce bandeau avec cette annonce-là.
Merci infiniment. Ce que tu dis, c'est la chose la plus importante, en fait, pour moi, dans ce livre. C'est vraiment la chose que j'ai essayé de faire. Pour plusieurs raisons. Cet âge de 13 ans, c'est quelque chose qui nous met vraiment mal à l'aise. Je pense, imaginez une fille de 13 ans, déjà, c'est, déjà pour les filles qui le vivent, c'est une position intenable. Parce qu'on a tellement d'injonctions contradictoires. À la fois, il faut être pure, savoir se préserver. De l'autre, on nous dit qu'il faut commencer à être désirable. On est déjà inscrite d'office dans cette compétition de qui pourra se mieux se conformer au code de la féminité. Puis la sexualité des filles de 13 ans, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et à raison, parce qu'il faut encore protéger ces jeunes filles-là des assauts pédocriminels, disons ce qui est, des hommes plus âgés qui peuvent les regarder comme des objets de désir. Et donc pour cette protection-là, on paye le prix en fait de ne pas raconter des histoires de ces filles qui ont tant besoin de représentativité. Et même pour nous, devenues femmes adultes, on a droit à ces récits-là qui nous prennent pour sujet. Et c'est exactement ce que tu disais, les filles de 13 ans dans la littérature, dans le cinéma et ailleurs, ont tellement été des objets littéraires et qu'il me semble important de parler de la position d'une fille de 13 ans, de les prendre pour sujet. C'était un mouvement hyper important pour moi. C'est plutôt les garçons qui sont objectifiés dans ce livre-là. Donc ce retournement était à mon sens nécessaire, oui, un peu comme une revanche.
Oui, moi quand j'ai lu le livre, ça m'a fait penser à un autre roman que j'ai adoré de la rentrée littéraire de septembre, qui était Grande Couronne de Salomé Kina, avec une histoire différente, mais une narratrice du même âge et qui explore aussi de manière un peu initiatique ce que c'est d'être une adolescente confrontée aux relations hommes-femmes, au sexe et à l'amour à la fin des années 90, début des années 2000 et qui a cette même verve un peu narquoise mais aussi très attachante et je trouve ça vraiment très bien que ces filles-là puissent avoir leur voix propre en littérature et le fait d'utiliser la première personne, donc ça je trouve ça très intéressant aussi.
Et je suis d'accord avec toi, j'ai adoré Grande Couronne. Il me semble qu'on est de plus en plus nombreuses de femmes autrices de cet âge-là à peu près à se dire, à se retourner un peu sur notre adolescence, à se dire, mais qu'est-ce qu'on a vécu en fait, nous, au tournant du millénaire? Mais comment c'est possible qu'on ait vécu tout ça? Et à vouloir en faire le récit, c'est quelque chose que j'ai reconnu dans Grande Couronne, mais aussi dans d'autres livres que j'ai lus récemment. Bah, notamment, je citerai Les Maisons Vides de Laurine Tizi ou l'excellent roman de Lolita Peel. Enfin, c'est plutôt un récit, une adolescente, qui sont tous les deux, donc tous ces deux livres-là sont sortis à la rentrée de janvier. Et je suis ravie de voir qu'il y ait de plus en plus de voix féminines qui s'élèvent pour parler de cet âge qui est si crucial et si charnière.
Alors, Le Goût des Garçons, c'est un roman qui est assez court, qui est très dense. Quand j'ai lu aussi, je me suis forcément demandé comment ça s'était passé pour toi, l'écriture de ce livre, parce que chaque page semble être taillée dans la dentelle et c'est vraiment un bonheur à lire. Donc, j'aimerais savoir comment s'est passé pour toi l'écriture de ce roman.
Alors, d'un point de vue strictement littéraire ou dans ma vie?
Les deux. Bah, allons-y, parlons de tout.
Parlons de tout, faisons ça. Alors d'un point de vue strictement littéraire, je pense que moi je n'écris pas beaucoup. Je ne suis pas du genre à noircir des pages et des pages et même j'ai beaucoup de mal à persévérer dans l'écriture d'un texte quand je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai déjà écrit. Donc j'ai tendance à beaucoup revenir sur ce que j'ai écrit, phrase par phrase, je suis très obsessive à retravailler pour être sûre que tout sonne juste. C'est très important pour moi, la langue est extrêmement importante, c'est ma plus grande obsession quand j'écris. Et donc effectivement, ce livre est court et je l'ai écrit assez rapidement, en 9 mois. Mais avec toujours ce grand soin en fait de ne pas avancer tant que je n'étais pas satisfaite de ce que j'avais déjà écrit. Et j'ai été, je pense, assez exigeante envers moi-même sur ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'avais pas forcément... je ne savais pas que j'allais écrire aussi rapidement. J'avais pas de structure précise en tête. Enfin si, j'avais quelques jalons de l'histoire, mais je n'avais pas posé en avance les plans architecturaux du roman. Mais je me suis laissée vraiment guider par la langue et par le fait d'avoir une langue... la meilleure possible au fil de l'écriture. J'ai essayé plusieurs choses pour mener un roman à bout. J'ai des ébauches de romans. C'est le premier roman que je termine, donc voilà, j'ai à peu près tout essayé. J'avais des romans vraiment comme ça, cathédrale, avec une architecture précise, en me disant, bon voilà, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, puis partie 1, partie 2. Il y a une symétrie entre les parties, et ça n'a jamais réussi. Mais je pense que c'est vraiment dû à ma personne et à qui je suis. Je suis quelqu'un d'assez spontané, et j'aime bien me laisser transporter par ce qui se passe. Et donc là, pour ce livre, je me suis dit, on va faire confiance à la magie qui s'opère lorsque tu écris. Je savais un peu où j'allais aller. J'avais des idées de choses que je voulais raconter. Et j'ai un peu découvert, en fait, au fil de l'écriture, ce que j'avais envie de dire. Et c'était très agréable. Et je pense, et c'est vraiment la musicalité de l'écriture, de la langue qui m'a portée, en fait, qui a porté le récit et non l'inverse.
Oui, c'était une manière aussi, d'après ce que tu dis, de découvrir... ton fonctionnement en tant qu'écrivaine, si tu avais essayé d'autres méthodes ou d'autres façons de faire qui n'avaient pas marché.
Je pense que c'est le plus difficile, savoir comment on fonctionne en tant qu'écrivaine, ce qui marche pour nous, qui n'est pas forcément ce qui marche pour les autres, c'est le plus dur.
Oui, et puis c'est pas forcément l'intuition qu'on peut avoir, puisque souvent on parle justement de structure, de plan, d'avoir des choses très construites et d'avoir des directions et de tout faire en amont, alors que parfois c'est tout l'inverse qui se passe. Mais ça, il faut l'expérimenter.
Et ça dépend. Moi, j'ai une amie écrivaine dont j'aime beaucoup les livres qui s'appelle Céline Zuffray et qui m'a montré, m'a envoyé l'autre jour une photo de son mur rempli de post-it avec le plan de son livre, les personnages. Et je lui ai dit, mais waouh, on fonctionne de manière tellement différente. Et pourtant, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa littérature, mais la manière d'écrire ce qui se passe en fait dans les coulisses peut être différente et peut changer d'une personne à l'autre. Moi, c'est ce qui m'a... J'avais quand même un tableau Excel, je vais pas mentir. Mais c'était plus un tableau Excel pour me permettre de suivre ce que j'avais déjà écrit, pour avoir un peu en tête ce que j'avais... En fait, les chapitres déjà écrits, j'avais beaucoup de détails sur ce qu'il y avait pour ne pas me répéter ou pour... Et puis, j'avais des vagues idées pour ce qui devait venir, et à mesure que j'écrivais, ces idées, elles s'éclaircissaient. Et bien sûr, j'ai jeté énormément de chapitres que j'avais écrits et qui n'avaient pas leur place dans le roman.
Si t'avais écrit des précédents manuscrits qui n'avaient pas abouti, j'imagine que ça fait un petit moment maintenant que t'écris. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours fait? Et c'est une question en deux temps. Donc, est-ce que t'écris depuis longtemps? Et une fois que t'as eu terminé pour de bon ce manuscrit-là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as cherché tout de suite à le faire publier ou pas vraiment? Bref, dans quel état d'esprit t'étais?
Ok, donc première question, oui, j'écris depuis très longtemps. Il me semble qu'on est nombreux et nombreuses dans cette situation-là, nous qui écrivons, je pense que tu peux confirmer, à avoir eu cet amour-là dès l'enfance. C'est quelque chose qui vient de la manière dont nos parents, enfin moi j'ai une mère qui lit beaucoup et qui est très encourageante, donc quand je fais mes petites histoires comme ça, mes petits contes de quand j'avais 7 ans, elle s'extasiait devant comme si c'était la chose la plus merveilleuse qu'elle avait jamais lue, et je pense que ça aide énormément en fait à développer ce genre d'aptitude, avec bien sûr des pauses plus ou moins au fil de ma vie, au fil des études. Enfin, par exemple, j'ai fait une prépa littéraire et je pense qu'à ce moment-là, on est très dans une approche très analytique à la littérature, donc c'est plus difficile de faire une écriture, d'avoir une écriture créative, des moments de ma vie qui étaient très, où il se passait plein de choses, où j'ai moins écrit, mais ça a été un peu le rêve de ma vie et le fil conducteur de ma vie, l'écriture, et même les moments, en fait, ce qui est marrant, c'est même les moments où je n'écris pas, j'écris dans ma tête, en fait. Je suis toujours là à faire semblant, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il se passe un truc, c'est comme si j'avais un stock en fait de choses à écrire. Donc ça c'était la première question, et la deuxième c'était quand j'ai fini le manuscrit, ce que j'ai fait la fête. J'étais très contente, j'avoue. Donc voilà, j'ai quand même célébré, parce que c'est important de finir un texte même s'il n'est pas publié. C'est quelque chose que un triomphe quoi, même si on ne le fait pas publier. Et puis évidemment, je voulais le faire publier. Hein. Je vais pas mentir. Il y a souvent des écrivains, des écrivaines qui disent moi, je voulais sortir ce texte de moi. S'il est publié, très bien. Sinon, non. J'admire. Mais pour moi, c'était important l'étape de la publication parce que je pense qu'on écrit depuis toujours. On nous raconte un peu que ce serait impossible et que donc l'amour qu'on porte à la littérature sera toujours un amour un peu clandestin. Parce qu'on sera jamais vraiment écrivain, il va falloir le faire un peu grignoter sur son temps libre, ne pas dire quand quelqu'un nous demande en soirée mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, ne pas dire bah oui moi je suis écrivain, parce que c'est un truc un peu qu'on garderait entre soi et soi. Et moi j'avais envie de vivre mon amour au grand jour, et il y a énormément de façons de le faire, et la publication c'est une des façons, donc pour moi c'était important. Et donc voilà, j'ai envoyé rapidement, dès la dernière relecture, je m'étais dit bon, c'est à peu près acceptable, et je l'ai envoyé. Et c'est pas la seule manière de vivre son amour pour la littérature au grand jour. Je pense qu'il y a des très bons écrivains qui peuvent écrire toute leur vie et ne pas être publiés. Mais je pense que si on veut être publié, c'est pas pour la gloire. Enfin, ça peut l'être, hein, peut-être des gens narcissiques, mais ça peut aussi découler d'un amour fort de la littérature qu'on a envie de mettre en œuvre dans sa vie. Et puis quand on est publié, on rencontre des gens, bah, des libraires, des éditeurs, des personnes qui nous lisent, et c'est une autre manière de vivre et d'actualiser son amour pour la littérature.
Mais c'est pas quelque chose qui te faisait particulièrement peur, le passage à la publication ou le fait d'envoyer à des maisons d'édition, sachant tout ce qu'on connaît aussi autour de ça, les lettres de refus, les mois qui défilent, les réponses qui ne viennent pas. Il y en a que ça peut angoisser énormément.
Ah si, j'étais terrifiée. si, en plus je suis très anxieuse, je suis très obsessive, j'avais très peur. Mais c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il faut ne pas le faire. Et puis quand j'ai su que ça allait être publié, j'ai eu encore plus peur, parce que je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit. Parce que bon, mon texte, il y en a plein qui me disent, ah oui, c'est courageux. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, courageux? Donc voilà, c'est un texte dont on dit c'est courageux, donc autant dire j'avais peur aussi, quoi. Mais bon, c'est pas la peur qui va m'arrêter.
Alors, tout à l'heure, t'as dit qu'on écrivait en grignotant sur son temps libre, ce qui me permet d'opérer la transition avec ta façon de travailler à l'heure actuelle, comment s'intègre l'écriture dans ton quotidien. Tu disais que t'es pas quelqu'un qui va écrire beaucoup en termes de production, mais est-ce que tu vas être du genre à écrire tous les jours, à te mettre une discipline particulière, avoir besoin de certaines choses très cadrées pour écrire ou pas du tout? Bref, quel genre d'autrice es-tu?
Alors non, malheureusement, je n'écris pas tous les jours. Tous les jours, je me dis que je devrais écrire, mais je suis pas très disciplinée. J'aimerais avoir plus de constance dans ma vie. Pour écrire ce roman, j'ai besoin d'un cadre et d'une structure très stricte. J'ai écrit pendant le confinement. Au début du confinement, je me suis dit, ça y est, le premier confinement, je me suis dit, ça y est, Joy, c'est ton occasion. Tu n'arrêtes pas de dire que tu cours un peu comme ça après les moments d'écriture, tu shippes une soirée par là, une heure par ci. Et là, t'es chez toi. Donc, si tu n'écris pas maintenant, et puis moi, j'étais dans des situations quand même idéales où je n'avais pas à m'occuper d'enfants. J'ai un conjoint qui est très qui me soutient énormément et qui m'encourage. Donc voilà, toutes les conditions étaient réunies. J'étais dans une situation. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas vécu leur confinement comme ça. Il se trouve que moi, j'étais dans une situation agréable, dans un appartement avec un conjoint qui comprenait ce besoin d'écrire là. Et donc je m'y suis mise, ce qui m'amène au deuxième point de structure. Moi, je suis pas très structurée et j'ai besoin de structure pour écrire. Et en fait, je pense que on parle beaucoup de chambre à soi, et c'est très important d'avoir une chambre à soi quand les autres ne comprennent pas notre besoin d'écriture. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui est là pour mettre un peu de structure dans la vie et pour nous aider à avoir ce temps d'écrire. C'est vraiment la plus belle chose, en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui écrit, c'est ça. Et moi, j'ai de la chance d'avoir donc du coup mon conjoint qui est très qui lui est très structuré dans sa vie et qui m'a aidée. Donc en fait, par la force des choses, j'ai eu une certaine structure. J'avais, pendant que lui travaillait, moi j'écrivais. Donc j'ai eu un peu cette routine là qui m'a permis de mener à bien ce roman, et que je cherche donc pour mon deuxième roman qu'il faudrait que je trouve. Après, je suis pas non plus fétichiste de la routine. C'est pas grave si un jour on écrit le matin et l'autre le soir et après la nuit, si on n'a pas le temps d'écrire tous les jours, si on va faire un peu des séances marathon comme ça de 3 jours et puis pas écrire. Faut pas non plus être... La routine n'est pas plus importante en fait que l'écriture, donc il faut pas se laisser dévier par ça. Mais pour les gens qui ont un style d'écriture un peu comme ça, chaotique et spontané, c'est bien quand même d'avoir un cadre qui peut venir de soi ou d'autres personnes, ou d'un atelier d'écriture, ou de rendez-vous avec des amis qui écrivent. Enfin...
Est-ce que tu lis pendant que tu écris ? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aussi, parce que les réponses sont assez variables d'une personne à une autre. Est-ce que tu as lu des auteurs ou des autrices spécifiques pour l'écriture de ce roman-là ?
Alors non, pour ce roman-là, je n'ai pas lu pour écrire. Donc j'ai juste, voilà, j'ai pas forcément construit mon texte à partir d'autres textes, voilà. Mais oui, bien sûr, je lis pendant que j'écris. Évidemment, ce serait triste sinon de s'interdire de lire pendant des années ou des mois. Moi aussi, j'avais un peu peur avant de perdre mon style, d'imiter, d'être dans un pastiche de l'auteur qu'on lit. Mais non, ça ne se passe pas en fait, donc c'est pas un vrai danger, enfin en tout cas pour moi, donc oui, je lis pendant que j'écris.
Et quelles sont tes influences ou les auteurs tout simplement qui comptent pour toi, qui ont compté d'une manière générale ?
Proust, bien sûr. C'est des lectures que d'adolescence en fait, et 15-16 ans, et waouh, je me suis dit bon, d'accord, il se passe un truc sérieux là. Proust a été pour moi une vraie révolution. Stendhal aussi. La Chartreuse de Parme est un des livres qui a le plus marqué ma vie. Albert Cohen, que j'adore. Donc voilà, c'est un peu ma trinité. Et puis, comment ne pas citer des écrivaines comme Colette ou Françoise Sagan qui ont permis par leur liberté à des textes de femmes après d'exister après elles, quoi. Bien sûr, on est très redevables.
Et à ton tour, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, entre guillemets, à une jeune autrice dans le même processus dans lequel tu te trouvais il n'y a pas si longtemps, à savoir écrire son premier roman, avec tous les doutes et toutes les angoisses que ça peut susciter? Est-ce que tu aurais un petit conseil ou un petit mot d'encouragement à dire?
Écrire ce qu'elle a envie d'écrire, je pense que c'est le plus important. C'est trop important en premier roman, et puis personne ne vous attend. Mais il faut que vous imposiez. Donc c'est trop important d'écrire des choses, parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut écrire. Et je parle du sujet du roman, mais aussi dans un roman. S'il y a des passages qui vous ennuient, il faut couper. Je pense. Il faut pas s'astreindre à écrire des choses qui ne nous font pas vibrer. Il faut qu'il y ait cette intensité en fait partout. Il faut que chaque page soit intense et se suffisent à elles-mêmes, et c'est pas grave, on peut briser la structure narrative, on peut faire des choses, on a le droit, on n'a aucune règle en fait, on n'est pas obligé d'avoir des trucs symétriques ou bien, ou de passer de un point A à un point B, c'est la littérature, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, écrire ce qu'on a envie d'écrire.
J'en arrive déjà à ma dernière question, qui est de savoir si dans ton processus créatif, il t'arrive d'être confronté à la page blanche, et si oui, comment est-ce que tu fais pour la surmonter ?
Bien sûr, bien sûr, la page blanche est ma meilleure amie. Je pense que d'abord, il y a deux genres de pages blanches. Il y a la page blanche de « je sais pas ce que je vais écrire » et la page blanche de « je sais pas comment je vais l'écrire ». Donc, je ne sais pas ce que je vais écrire, ça veut dire que je suis pas assez mature pour m'asseoir face à mon ordinateur. Donc, je vais vivre, j'attends des mois que ça passe et tout, parce que moi, je dois être habitée par un sujet ou par ce que j'ai envie de dire. Et le deuxième, la deuxième page blanche, c'est je sais très bien ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment. Et c'est le pire. Et comment je fais ? Je crie, je m'énerve contre moi-même, je pleure, je ris, je regarde des séries, et puis voilà, pour essayer de de faire passer. Et puis à un moment, ça vient et ça vient. Bah, il faut vivre en fait ce processus de colère, de frustration, de désespoir, et puis ça va venir. Il faut pas abandonner en fait, plutôt.
Oui, parce que abandonner, finalement, c'est la meilleure façon de faire un cercle vicieux avec toute la frustration et toute la colère et l'impression qu'on n'y arrivera jamais.
C'est un cercle vicieux que je ne connais que trop, donc en fait voilà, si on n'écrit pas, on a 100% de chance de pas écrire. Donc voilà, il faut y revenir, même si c'est désagréable. En fait, je pense que c'est des sentiments qui sont très désagréables, d'être devant une page Word, enfin, en tout cas pour moi, peut-être d'autres écrivent à la main, et de se dire « j'y arrive pas ». Et c'est horrible, quoi. Et donc, il faut pas éviter ce sentiment affreux en faisant autre chose, en se disant « ah, de toute façon, c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai toujours su que j'étais pas vraiment écrivain, au fond ». Il faut être là et souffrir jusqu'à ce qu'on arrive à écrire quelque chose qui vaille la peine.
Ouais, et jusqu'à terminer le manuscrit et pouvoir faire la fête.
Et pouvoir faire la fête, donc c'est l'étape la plus importante de tout ce processus. Mais c'est vrai, non, en plus, c'est vrai, il faut célébrer ses victoires, c'est dingue, genre juste d'avoir fini un texte, de mettre un point final, c'est déjà quelque chose d'énorme, donc c'est important de savoir se dire bravo pour des choses qu'on a faites.
Ouais, je crois que t'as raison et je trouve ça très important de le dire, donc merci beaucoup. Merci infiniment pour cet échange vraiment passionnant, je pense, j'espère qu'on aura donné envie de lire Le goût des garçons. Je pense que j'ai pas fini d'en parler autour de moi parce que je crois que c'est un livre vraiment essentiel et je lui souhaite vraiment le plus beau des succès, donc merci à toi.
Merci infiniment, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcasts et mettre un petit commentaire. Quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.